C'est très court, il n'y a qu'une seule question sur les opinions politiques. Là, vous avez intérêt quand même aussi un peu à vous entendre. De toute façon, maintenant, droite, gauche, en même temps. Alors, loisirs. Quels sont mes loisirs et intérêts, sportifs ou autres? Vous connaissez quelqu'un qui faisait du biathlon ou du... Et donc, sa femme devait suivre. Elle était assez sportive, donc elle a suivi. Mais bon, plouf, 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 voilà. Puis je l'ai partagé avec mon fiancé ou ma fiancée. Si vous faites de l'ascensionnel, voilà. Bon. Quelle place aimerions-nous leur accorder personnellement? En couple, envisagerions-nous par exemple de faire du sport ensemble, de faire des visites culturelles, théâtre, voyage? Je ne sais pas qui a fait ce questionnaire, mais les loisirs, c'est aussi les musées, c'est aussi le cinéma, c'est voilà. Quelle aventure, quel hobby aimerais-je réaliser seul ou en couple? Les vacances sans son mari ou sans sa femme, je vous le déconseille en règle générale. Voilà. Mais bon, c'est à un moment donné, ceci, cela, mais voilà. Alors, à quel moment il vous parle des lectures? Non, pas vraiment. Voilà, de ce qui vous intéresse, de l'histoire, bon, les idées politiques, on a vu un peu. Donc, quelle est votre culture? Quels sont vos centres d'intérêt en dehors de votre métier? Voilà. Quel est votre sens de artistique? À vos souhaits. Budget et argent. Parce que, bon, hein, travail, mais les loisirs aussi, c'est... Sauf si vous faites du jogging, ça coûte pas trop cher. Quel rapport ai-je avec l'argent? Quelle valeur a-t-il pour moi? Suis-je plutôt économe ou pas? Comment est-ce que je gère mon argent? Dans quel domaine suis-je le plus dépensier? Ma famille a-t-elle déjà connu ou connaît-elle des difficultés financières? Quelle place voulons-nous donner à l'argent dans notre couple? Nous sommes-nous mis d'accord sur le plan de la gestion financière? Responsabilité du budget, des comptes en banque. Est-ce que nous avons choisi le régime de la communauté ou alors est-ce que nous sommes en séparation des biens? Ce qu'on conseille à tous ceux qui ont une activité de gestion de commerce. Parce que si vous avez des difficultés financières, c'est tout le couple qui paye les dettes. Sauf si vous êtes en séparation de biens. Avons-nous des dettes? Déjà? Voilà. Nous sommes-nous mis d'accord sur le niveau de vie que nous voulions adopter? Voilà. Est-ce qu'on prendra une Sandero ou une Porsche Cayenne? Sommes-nous réalistes dans nos projets? On prendra un 300 mètres carrés. Parce qu'on aura 8 enfants. Voilà. Ou alors, on demandera à la mairie de Paris d'avoir un 10 pièces. Je connais un colonel qui a, 10 enfants. Mais même avec un traitement de colonel, figurez-vous que quand vous êtes colonel, ce n'est pas non plus fantastique. C'est général, colonel, c'est merveilleux. Hein, mais bon, non, le mot claque peut-être, mais concrètement, quand vous commencez à avoir beaucoup d'enfants, vous n'allez pas aller au ski tous les hivers. Et donc... eux ont un logement de fonction, mais quand vous avez tant d'enfants, ben la gendarmerie doit vous trouver un logement de fonction correspondant à vos enfants. Et puis, si vous n'êtes pas gendarme, ben vous commencez à vous intéresser au HLM et par rapport à d'autres personnes. Donc, des projets, c'est être propriétaire, être en location. Quelles sont nos réelles priorités? Y a-t-il un décalage important de milieu social et de situation financière entre nos familles respectives? Alors, avant d'aborder le sujet qui fâche, on termine sur le budget et argent. Je peux vous assurer que c'est bien plus grave que le sujet qu'on va aborder, corps et fécondité. Parce que figurez-vous que l'argent est quelque chose de profondément destructeur. et que les plus grandes haines familiales proviennent souvent de l'argent et de la jalousie par rapport à l'argent. C'est franchement, c'est... Vous voyez, j'ai 48 ans, alors peut-être que je suis moi-même trop intéressé, sensible à ces sujets, je sais pas, parce que quand j'aurai 85 ans, est-ce que vraiment je tiendrai à ma petite retraite à la maison Marie-Thérèse, je sais pas, non. Ou à mes petits objets liturgiques en or ou en argent, vous voyez. Mais figurez-vous quand même que j'ai remarqué que surtout les disputes familiales, ça ne scinde pas forcément un couple, mais par contre ça scinde des familles, entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs. C'est vraiment un véritable poison, l'argent. Alors comment s'en tirer? Eh bien, considérer que l'argent est un moyen, en permanence, et non pas une fin. Quelque chose à toujours avoir, systématiquement, à un certain niveau. Et la crainte du lendemain et la crainte du futur au point d'être extrêmement tendu et inquiet. Et ça, c'est facile à dire quand on a un logement de fonction, quand on a le panier du curé, et que normalement je mourrai jamais de faim. Vous voyez, même en prison, même tout ça. Sauf à la guillotine, c'est sûr que là, ou exécuté par... Comme les prêtres, comment dire, au Mexique ou à la guerre d'Espagne, il y a eu des milliers de prêtres, de religieuses qui ont été fusillés. Hein, donc, ça peut nous arriver à nouveau, on ne sait jamais. Hein. Si Mélenchon devient président de la République, j'espère qu'il se souviendra qu'il a été enfant de cœur. Bon. Enfin voilà, mais l'argent est quelque chose de redoutable. À bon entendeur, salut. Corps et fécondité. L'amour s'exprime dans la tendresse et le don du corps. Il est source d'une fécondité charnelle et spirituelle dans l'ouverture aux autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé. La dimension... Nous sommes des esprits à l'image des anges. Donc on a une capacité de compréhension et d'amour qui dépasse le règne animal. Mais nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que nous accomplissons la création, à la fois le monde spirituel et le monde corporel. Mais pour être à cette intersection entre le monde spirituel et le monde corporel, eh bien, nous avons les nécessités animales. Nous avons besoin de boire et de manger. Et nous sommes attirés les uns les autres pour pouvoir perpétuer notre vie à travers les enfants. On a un instinct de conservation et un instinct de conservation même de notre espèce et de notre nature. Et il est, impossible à juguler. On dit, vous êtes en train de dire ça, mais vous... on renonce au fait de fonder une famille, parce que notre vie spirituelle l'emportera dans la vie éternelle. Et donc nous, on fait effort pour tout en trouvant une personne très belle, essayer de se dire, je vais pas être séduit malgré sa très belle beauté, voilà. Ce qui est le début de l'attirance spirituel. Vous voyez? Parce qu'il ne suffit pas d'être beau pour s'aimer. Au bout d'un certain temps, on parle, on discute. Et puis on découvre que la personne belle, elle n'est pas intéressante. Quoi. Alors bon, c'est pas suffisant. Et puis, même si ça aide beaucoup, ça ne compense pas. Et puis avec le temps, on est moins beau. Vous avez les chairs qui tombent, vous voyez? Là, moi, j'ai 3 stries, là, quand je me regarde dans la glace. Et alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a des soins pour hommes. Je pense qu'il y a des méthodes avec du froid. Il paraît que ça comble les cernes et les rides, les grandes rides qui commencent. Donc, je pourrais dépenser une partie de mon traitement de prêtre pour les soins du visage homme. Vous voyez? et j'aurais moins une tête de en Citroën, vous voyez. Mais voilà. Et vous, vous aurez beau essayer aussi de, à un certain âge. Alors, si vous êtes très très fort, vous n'aurez pas le ventre qui sortira à partir d'un certain temps. Il faudra faire du sport, hein, et maintenir les abdominaux, tout ça. Moi, c'est fini. J'ai perdu tout espoir. Et pourtant, j'ai fait mon service militaire. Au service militaire, on faisait abdominaux, traction, tout ça. Donc, j'ai eu une certaine espérance. Et j'avais, 26 ans que j'avais poussé jusqu'au bout le report. Hein. Donc, je me suis fait des déchirures musculaires, tout ça, parce que j'étais trop lourd à 26 ans. J'avais de gros et gras déjà de, comment dire, de 3 ans de séminaire. Donc, bon, voilà. Eh bien, pour, si vous voulez, à un moment donné, vous serez moins beau. Voilà. Et pourtant, notre nature animale appelle tout ce qui dépend de notre instinct. Instinct de rapprochement de l'homme et de la femme, et qui est voulu par Dieu et qui est aimé par Dieu. Donc, si vous voulez, celui qui écoute le vrai Dieu n'est ni puritain ni débauché. Il va vivre la sexualité naturellement. Mais pour qu'il y ait une sexualité spirituelle, donc c'est la monogamie, c'est-à-dire que son corps, on le donne qu'à une seule personne, car il y a une très grande intimité à l'acte conjugal. Et on fait une seule chair. Et les enfants qui peuvent naître de notre union sexuelle incarnent vraiment spécialement le fait qu'ils sont 50% de l'homme et 50% de la femme. C'est très impressionnant comment Dieu a fait les choses. Et comment, chez l'animal, il y a la même chose, c'est du 50-50 au point de vue ADN, mais dans la nature humaine, c'est une âme, une nouvelle âme, créée par Dieu au moment de la fécondation, et tout un monde, une personne, et même de parfaits jumeaux, où la cellule qui se divise se sépare. Donc c'est les parfaits jumeaux, pas les jumeaux parce que deux ovules ont été fécondés et progressent ensemble. C'est les faux jumeaux, enfin, et des vrais jumeaux, donc l'ADN est totalement identique. Eh bien, leur vie spirituelle, leur âme va leur donner des personnalités différentes. Ils ont le même corps, ils devraient avoir le même tempérament. Ben, non. Parce que même avec le même corps et un certain tempérament similaire, il y a des choix de l'âme qui vont faire qu'ils seront une personnalité différente. C'est très impressionnant. Et c'est de l'homme et de la femme cette rencontre et cette union. C'est très impressionnant. Vous allez me dire, ben on va le faire qu'une fois, hein, c'est tellement merveilleux que... Ah, voilà. Eh bien non, on peut avoir plusieurs enfants et avec des personnalités toutes différentes. Et donc cette connaissance de cette union du corps et de l'âme est essentielle à la vie humaine. Oui. Alors là, on vous pose des questions plus prosaïques, hein, c'est au point de vue justement de votre pudeur ou de votre des craintes que vous pouvez avoir ou tout cela qui sont justement exploitées dans certaines sciences psychologiques, hein. Mais si on n'est ni puritain ni sensuel à l'excès, voilà, il faut être raisonnable. Est-ce que je connais mon corps? Vous voyez, dans le puritanisme, on va même pas se regarder dans la glace, vous voyez. Mais de nos jours, ben voilà, on peut toujours parler de féminisme, mais ce qu'on voit sur les affiches en général, c'est plutôt des femmes. Hein. C'est plutôt 80% à 90% de femmes et qui sont peu habillées. Oui. Comme quoi, voilà. les féministes sont... Alors c'est amusant parce qu'elles disent oui mais justement j'ai le droit de me déshabiller et on n'a pas à m'embêter. Oui. Mais il y a quelque chose de décalé, hein, profondément. Mais est-ce que je connais mon corps? Donc c'est pas, ne pas avoir honte de mon corps, de l'assumer mon corps. Et est-ce que je l'aime? Est-ce que je le nourris? Est-ce que je le soigne? Donc ça veut dire que entretenir la beauté de son âge, c'est bon. Oui. Se coiffer correctement, c'est bon. Jamais dans la religion, on vous a demandé d'être laid. Alors vous allez me dire, oui mais quand même, les femmes avaient la tête couverte hein, pendant des siècles. Hein. Oui, c'était de la modestie. Oui. Et donc, de fait, les femmes, de peur que les hommes soient trop sensuels, trop attirés, les femmes avaient la tête couverte hein, pendant longtemps. Hein. Mais au bout d'un certain temps, le catholicisme aidant, la confiance en Dieu aidant, le fait aussi de s'assurer que une femme peut pas être renvoyée parce qu'elle devient moins belle. Eh bien, les voiles ont commencé à être ornées et ça a donné les coiffes bretonnes. C'est amusant, voyez, parce que la coiffe bretonne, c'est le voile à la messe. Alors c'est amusant parce que dans un voile à la messe. C'est un voile, une mantille. Puis en Espagne, c'est devenu des coiffures hallucinées. C'est un voile. Mais bon, vous avez un peigne qui est comme ça, qui tient le voile, et le voile derrière, il est brodé à mort. Enfin, ça devient délirant. Et pourtant, ce sont des voiles de messe du dimanche. Et alors, vous avez un chapeau à tuyaux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le voile de la femme. Donc, vous voyez, le catholicisme a fini par s'amuser du voile. Et puis, au bout d'un certain temps, ben, on n'a plus de voile du tout. Mais, si vous voulez, quand on voit des musulmans arriver, eux, ils viennent de tradition du désert, où on peut faire l'objet d'un rapt, parce que quelqu'un trouve notre femme plus belle que la sienne, il la prend, et vous la trouvez plus. Oui. Et donc c'est pour ça que les femmes étaient couvertes. Et si en plus un voile ne cache pas la beauté du visage, eh bien alors là, par contre, c'est ce qui est excessif par rapport à la tradition orientale la plus généralisée, c'est vous n'avez plus rien. La femme est dans un sac. Et donc vous voyez. Et le pire encore, c'est il n'y a plus qu'un œil. Pourquoi? Parce que certains ont dû se dire, l'œil est déjà trop beau. De fait, hein, quand vous êtes sur les Champs-Élysées et que vous voyez une princesse qatari, vous voyez que les yeux, mais il y en a qui se maquillent tellement que c'est chez Razad, hein, c'est joli. Donc, on va pas lui crever un œil pour que ça soit moins joli, donc on va couvrir un œil, et il n'y a plus qu'un œil. Mais quand l'œil est trop joli encore, et bien on va grillager le trou qu'il y a sur l'œil unique, et là, c'est parfait. Là, pour le coup, le truc d'après, c'est boum, il n'y a plus rien, ou alors le voile est tellement fin qu'elle voit, mais nous, on ne voit pas. Mais vous comprenez, vous voyez, que nous, en France, c'est pas en tant que laïc, mais c'est aussi en tant que chrétien qu'on peut pas accepter. Et on n'est pas très courageux. Hein. Mais en soi, l'Église catholique n'accepte pas le voile permanent de la femme. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la répudiation. Voilà ce que ça signifie, le voile. Intégral, le machin, tout ça. C'est la femme qu'on peut répudier. C'est ça que ça signifie. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez entendu dire, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez dire, mais moi je vous le dis, en tant que prêtre, l'argument théologique, philosophique, c'est que le voile, ça signifie que la femme peut être renvoyée, et qu'elle est l'objet du mari. Et je vous ai dit que la femme chrétienne, la femme de l'Occident, mais non, Vous avez des chrétiens coptes, vous avez des chrétiens arméniens, vous avez des chrétiens irakiens, vous avez des chrétiens indiens. La femme qui ne peut pas être renvoyée, elle devient la femme. C'est ça. Nous, on ne se rend même plus compte que justement, si la femme a autant de droits de nos jours, c'est parce qu'elle a été constituée par l'absence de divorce pendant des siècles. Enfin, l'absence de répudiation. De nos jours, c'est merveilleux, tout se délite, parce qu'on peut non seulement renvoyer sa femme, mais la femme peut renvoyer l'homme. Et donc, du coup, ben là, c'est le souple le plus complet. Et c'est la charité qui se refroidit. Mais c'est une nouveauté par rapport au siècle passé. Avant, c'était la femme qui était en danger. Maintenant, tout le monde est en danger. Et puisque la femme peut renvoyer son mari. Mais le mari peut aussi renvoyer sa femme. C'est revenu. Et bien voilà. Ce qui fait que... abordons-nous librement le sujet de la sexualité. Quelle est l'attitude de chacun de nous face à la fidélité du corps? Quelle place donnons-nous à la tendresse dans l'amour, parole, geste, attitude? Eh bien, voyez-vous, quand vous aurez le couple qui va venir, à la grâce de Dieu, je crois qu'on l'aura demandé, n'est-ce pas? Il faut essayer de faire tout votre possible pour être là à la 6e séance. C'est quand? Dans 2 semaines, hein, je crois, il n'y a pas d'interruption. Parce que, voyez, Sophie Martin Grybowski et son époux sont un couple chrétien et très franc. Donc elle va vous parler des choses, mais vraiment cash de chez cash. Venez surtout parce que c'est extraordinaire de voir des gens qui ont fait plus presque 45 ans de mariage et qui vont vous dire tout. Union libre et mariage. Voilà. Quelle différence voyons-nous entre union libre, concubinage total, Pax, concubinage fiscalisé, mariage civil, super Pax, et mariage sacramentel. Vous voyez, le premier Pax, ça a été le mariage civil, il y a 200 ans, à la Révolution française, puis ensuite à la Troisième République. Pourquoi? Parce que le mariage est indissoluble. Donc un mariage qui peut être dissous par le divorce, c'est un concubinage plus. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pays où le mariage religieux est enregistré dans l'état civil. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et ceux qui ne sont pas religieux se marient uniquement à l'état civil. Et ceux qui sont censés être religieux et croyants vont se marier dans leur religion et ensuite ils envoient les papiers de l'autorité religieuse à l'État qui enregistre le mariage. Ça se passe en Italie, ça se passe dans certaines régions du Royaume-Uni, pas toutes.
En Espagne.
En Espagne, je crois, en Allemagne plus, si, oui. En Espagne, vous pouvez vous marier à l'église et vous envoyez les papiers à la mairie. En France, depuis la Révolution française, niette, dispute, querelle, donc vous devez bégayer votre mariage. C'est-à-dire, vous devez dire oui devant la société civile et oui devant Dieu. Enfin, quel est l'intérêt de dire 2 fois oui? Alors, vous dites, c'est une fusée à 2 étages, c'est normal, on a toujours vécu comme ça. Ben non, ça fait 200 ans qu'on vit comme ça. Et encore, il y a une interruption de 1804 à 1884. Non, 1870 peut-être. Ou est-ce que Napoléon III a rétabli? Vous voyez, il y a eu, en tout cas, de 1804 à 1850, le mariage religieux était noté dans l'état civil. En France, Donc c'est environ 160 ans de mariage civil actuellement en France. Qu'est-ce que c'est que le mariage civil pour vous maintenant? C'est vous dire, mais quand même c'est important. Civilement, c'est l'état civil, c'est le, comment dire, la filiation, savoir qui, est-ce qu'on reconnaît qu'un enfant a tel père et telle mère qui sont mariés, avec certains droits encore, est-ce que on a droit à certaines aides en tant que couple marié, est-ce qu'on a droit à une fiscalité particulière? Et donc, on doit le faire. Vous n'allez quand même pas nous dire de ne marier qu'à l'Église. Et en effet, l'Église va vous dire, il faut les effets civils de votre mariage religieux, devant Dieu. Pourquoi il y a cette séparation? Mais parce que dans le mariage civil, il n'y a pas de promesse d'indissolubilité, de fidélité, d'unité. Ah si, dans le code civil, il y a une promesse de fidélité. Mais oui, mais cette promesse de fidélité, maintenant, elle est presque nulle, parce qu'avec la jurisprudence de la Cour de cassation, si vous êtes infidèle à votre mari ou à votre épouse, bon, bah, de nos jours, ça se fait, alors vous ne pourrez même pas obtenir un divorce pour faute facilement si vous trompez votre femme ou votre mari. Hein. On considère maintenant que la fidélité, bon, c'est un mot dans le code civil. Quoi. Ah. Ah oui, mais c'est embêtant parce que ça s'éloigne de plus en plus du mariage naturel. Hein. Et ça part très loin. Voyez. Donc le mariage civil, on va vous faire lire des articles du Code qui sont liés à la loi naturelle et liés à la révélation chrétienne. On vous demandera la fidélité, le respect, le machin et tout ça. Et puis derrière, ils vont pas vous faire lire les articles. Au bout de 2 ans de rupture de la vie commune, divorce automatique. Non, ils vont pas vous faire l'air. On va pas partir sur un échec, vous voyez. Mais ils vont vous. Et il faut aussi. Je crois quand même qu'il y a des articles sur les enfants. On vous fait lire les articles du Code civil sur la responsabilité pour l'éducation et la moralité des enfants. Qu'est-ce que c'est que cette moralité? Mais si vous voulez. Le mariage civil, ici, s'il n'est pas dans la vocation de l'unité, vous voulez pas être polygame, hein, rassurez-moi. Non? Vous voulez pas vous marier 2 ou 3 fois? Non? En même temps, hein. Comme, unité, fidélité, indissolubilité. Mais aussi ouverture à la vie. Quand vous mariez civilement, on vous demande pas si vous voulez des enfants ou pas, hein. On vous dit que si vous avez des enfants, vous devrez vous en occuper. Mais on ne vous dit pas, ne vous empêchez pas d'en avoir. Tandis que dans un mariage authentique, que ce soit religieux ou pas, hein, que ce soit dans une église catholique ou un temple ou un machin ou tout ce que vous voulez, si vous ne vous engagez pas à accepter les enfants qui peuvent venir, il n'y a pas de mariage. Il y a une convivance seulement, mais c'est pas un mariage. Le mariage, c'est vraiment se donner l'un à l'autre et avec tout ce qui peut se passer. Ce qui fait que connaissons-nous les causes principales de la désaffection du mariage en faveur de l'union libre? Eh bien, c'est, si vous voulez, le mariage a perdu. On s'est amusé du divorce, on s'est amusé, vous savez, ici on est au Grand Boulevard, donc vous connaissez le théâtre de boulevard. C'est toujours le mari trompé, la femme trompée, tout ça, on rigole. Les années 20, les années 30, les années... Et puis à la fin, on déconsidère totalement le mariage. Et puis, maintenant, il y a quasiment les mêmes droits. Vous voyez, juridiquement. Fiscalement, parfois même, si vous êtes... très très spécialisé dans la comptabilité, n'est-ce pas? Vous allez vous dire, ben, en fait, si on se marie pas, on paiera moins d'impôts. C'est incroyable. Alors que pendant des décennies, le fait d'être marié nous permettait de payer moins d'impôts. Mais là, c'est plus aussi net. Pourquoi? Mais la société n'encourage plus le mariage. Vous voyez? et vous avez une fiscalité avantageuse dans le Pax. Vous avez une, alors que le Pax, c'est la super répudiation, hein. Du jour au lendemain, salut. Impressionnant. Dans les mariages civils, quand même, bon, hein. Alors on va essayer de le simplifier, hein. Maintenant, deux avocats seulement. Pas de juge. Waouh. Donc, loup, 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 et à la fin, je ne sais pas ce qu'il en restera. Quelles sont les principales raisons des divorces? Allez. Ben, c'est tout ce qu'on a vu, hein. Donc là, je passe, hein. Nous le développerons, et puis peut-être qu'à un moment donné, vous aurez la parole.